Les culottés en savent.
Les culottés en savent. Des femmes qui ne causent que de ce qu'elles veulent.
Que vous soyez plutôt couche-culotte, slip ou tanga.
C'est l'émission audacieuse pour parler ensemble de parentalité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Les culottés en savent pour présenter cette nouvel épisode, la septième de notre quatrième saison, les violences conjugales. On va parler avec mes acolytes Alexandra et Sonia qui sont là. Bonjour.
Bonjour.
Salut, salut.
Ouais, c'est un thème très fort. On est entouré des invités comme chaque fois pour aborder ce thème de féminisme, de parentalité, d'enfants. Cette fois-ci, on attaque fort pour encore une fois, pour briser un autre niveau, quelques tabous sociétaux.
Effectivement. Chaque année, plus de 100 femmes perdent la vie suite aux violences que leur infligent leur conjoint ou leur mari. En 2024, nous refusons de considérer ces crimes comme des faits divers. En 2024, nous refusons le traitement médiatique qui en est encore trop souvent fait. Non, tuer sa compagne au motif qu'elle nous quitte n'est pas un crime passionnel, pas du tout. Et puis, violence n'est pas synonyme de coup. La violence revêt de multiples facettes, s'installe souvent de manière pernicieuse. Et si vous en doutiez encore, les hommes violents sont des manipulateurs. Alors non, rabaisser sa femme, même et surtout sous couvert d'humour, c'est pas du tout ok. Et non, isoler sa petite amie de ses proches n'a rien à voir avec l'amour, pas du tout.
Avec nos invités, nous souhaitons éveiller vos consciences à repérer les premiers signes de violence, de maltraitance, et qui sait, vous permettre de tendre la main à une proche, ou bien de regarder en face votre propre relation amoureuse. Nous vous présentons donc sans tarder Joanie Frigo. Bonjour Joanie.
Bonjour à toutes.
Alors Joanie, vous travaillez dans la région, mais en plus, dans vos passions, vous aimez les livres et vous êtes autrice de 4 livres, dont un qui parle de violence. Un témoignage roman qui s'appelle Le miroir des apparences, qui raconte avec sincérité et transparence la violence d'un couple.
On en parlera justement tout au long de l'émission, de ces témoignages pertinents. Et comme deuxième invitée,
Marie Pradel. Bonjour Marie.
Bonjour.
On vous avait eu sur la première saison sur un tout autre sujet, c'était les relations intergénérationnelles. Merci d'être de retour cette fois-ci avec votre casquette de responsable de Maison des Solidarités de la Salvetat Saint-Gilles, du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Et vous êtes intervenante pédagogique en centre de formation auprès des futures techniciennes de l'intervention sociale et familiale, qu'on appelle les TISF.
TISF.
TISF, sur la thématique des violences conjugales et intrafamiliales. Bonjour. Oui,
tout à fait, bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai changé de métier, puisque j'étais directrice du CCAS de Merville à l'époque, et aujourd'hui je suis donc responsable de la Maison des Solidarités de la Salvetat Saint-Gilles.
Merci, merci. Et alors, vous avez l'habitude, quand vous faites des interventions, de prévenir déjà votre public à la violence des mots que vous allez pouvoir employer, et on va vous laisser la parole pour faire cette prévention aux auditeurs, aux auditrices, surtout les auditrices, qui pourraient être sensibles aux mots qu'ils vont entendre dans notre émission aujourd'hui.
Effectivement, quand j'interviens sur les centres pédagogiques, j'ai l'habitude de commencer par dire qu'on va aborder un sujet délicat, difficile, qui est souvent tabou parce qu'il relève de la sphère privée. Et pour autant, il nous concerne toutes et tous. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le président Macron a lancé pour la deuxième fois son quinquennat sur la thématique de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, donc il me semblait important quand même de dire qu'on va aborder ce sujet qui est donc une nouvelle fois délicat et que vous risquez d'entendre des choses qui vont vous blesser, vous faire du mal. Parce que peut-être vous allez vous rendre compte que vous avez vécu des violences ou vous les vivez et que vous n'en avez pas conscience. L'idée de cette émission, en tout cas ma démarche, c'est pas de vous blesser, mais bien de faire de la prévention. Donc si c'est trop douloureux, bien vous pouvez arrêter l'écoute et la reprendre par les diffusions, mercredi, vendredi.
Et en podcast.
Bravo. Et en podcast, j'ai une bonne mémoire. voilà.
Merci Marie. Du coup, je vais revenir sur la définition du terme violence conjugale. en préambule. Bon, pour la team susceptible et autres persécutées par les femmes qui parlent fort, je vais préciser quelque chose. C'est la définition qui est fournie par le gouvernement français et qui, clairement, pour moi, se fout de cette cause un peu comme de sa première mobilette. Hein. Longtemps, ils ont claironné que ça faisait partie des grandes causes du quinquennat. Mais bon, on va pouvoir en discuter. Donc voilà, sur le site du service public, vous pouvez lire. L'expression violence conjugale désigne l'ensemble des violences physiques, psychologiques, économiques commises au sein du couple par le conjoint, le ou la partenaire de Pacs ou d'union libre. Les violences conjugales sont punies par la loi et vous devez porter plainte si vous en êtes victime. Vous pouvez aussi demander de l'aide à des associations, à des organismes publics. Nous vous guidons dans les démarches.
Alors là, c'est un mot, vous devez porter plainte, très imposé, mais on aimerait bien savoir petite de quelle façon on peut porter, jusqu'à où elle va cette plainte, mais on en parlera un peu plus tard de cette partie judiciaire. On peut commencer en fait justement par le fait de savoir, d'éclairer un peu nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce qui représente la violence conjugale et de quel type de violence on parle ? Joanie.
Alors, quand on parle violence conjugale, je pense que la plupart des gens pensent en priorité au coup qu'on peut recevoir. C'est souvent de ça qu'on parle. Les plaintes qui sont déposées le sont en grande majorité hein, suite à des épisodes violents au sein du couple, donc des choses qu'on peut voir, qu'on peut prouver. Mais au sein du couple, il y a plein de violences qu'on ne voit pas. Et ça me fait sourire quand j'entends cette définition, parce que je me dis, comment est-ce qu'on peut le prouver, en vrai ? Les violences psychologiques, par exemple, quelqu'un qui vous manipule, qui vous humilie du matin au soir chez vous, vous le prouvez comment ? Ça ne sont que des mots. Il y aura rarement d'écrits, forcément, ça laisse des traces. Dans les violences économiques dont il parle également dans cette définition, souvent on est une femme, quand on a des enfants, on change de travail, on va prendre un congé parental pour s'occuper des enfants ou autre. Ce n'est pas une violence économique, mais on est coupé du monde extérieur déjà, de la possibilité d'avoir des ressources ou autre, parce que quand on reprend un travail, c'est « tu te débrouilleras toi pour les chercher ou autre, parce que moi j'ai déjà mon emploi, j'ai ma carrière à gérer, toi tu recommences de toute manière, prends quelque chose là au SMIC et tu te débrouilles, d'accord ?
Parce que les inégalités salariales existent encore en fait.
Aussi, tout à fait. Donc pareil, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Mot très fort, alors désolé pour les oreilles susceptibles, on va parler de viol conjugal, de la manipulation, de la pression qui est mise sur la femme au sein de son couple. Comment aller prouver ça ? Déjà un viol tout court dans cette société, c'est compliqué, mais aller porter plainte parce que votre conjoint vous a forcé à avoir un rapport sexuel, je défie n'importe quelle femme d'aller le faire et de nous dire que ça s'est bien passé, vraiment. Alors, ça serait vraiment une très bonne surprise, mais j'ai vraiment de gros doutes. Je pense que j'en oublie encore, il y a l'isolement qui peut être ressenti comme une violence aussi parce qu'on n'a plus personne.
Parce que l'isolement n'est pas du fait de la femme, on est bien d'accord, on va resituer, c'est le conjoint, on va prendre l'exemple du conjoint, qui va petit à petit, par le fait de dénigrer la famille, les amis, isoler la personne.
C'est ça.
Et donc du coup, comme les proches se rendent souvent compte quand même qu'il y a un petit souci ou que le conjoint n'est pas hyper agréable, la femme en a marre de porter ça, d'aller dans son cercle d'amis et savoir que ses amis sont mis mal à l'aise par le conjoint et donc du coup s'isole forcément. On évite ce qui nous met mal à l'aise. Marie, tu veux compléter ?
Oui, je veux compléter parce que les violences conjugales et intrafamiliales, c'est avant tout un processus et un mécanisme. Donc c'est pas quelque chose qui s'installe comme ça d'un coup. C'est vraiment, il y a des étapes qu'on ne visualise pas, qu'on ne conscientise pas en tant que victime et aussi en tant qu'auteur. Ça, il y a quand même des études scientifiques qui le prouvent, donc c'est important de le rappeler. Et l'isolement est la première phase. Et l'isolement, ça peut aussi tout bêtement être je ne veux pas y aller à ce dîner, je suis fatiguée. Voilà, donc je fais une petite digression et une petite blague, une pensée pour Benabar, mais c'est juste pour imaginer et se rendre compte que oui, parce qu'au tout début, quand on est dans une relation amoureuse, on se sent bien et on est un peu exclusif. Donc tous les débuts d'une relation n'installent pas l'isolement. Effectivement, il faut modérer. Toutefois, c'est important de se rendre compte que petit à petit, si on s'isole de trop et si on passe tout notre temps avec notre compagnon, notre compagne, effectivement, ça reste de l'isolement et ça reste de l'exclusivité. Ce qui est important et ce qui n'est pas dit dans la définition que vous avez donnée, c'est que en fait, ce qui est défini comme de la violence conjugale, c'est la différence avec le conflit. Et ça c'est légiféré quand même, il faut le rappeler. Le conflit, ben, on a une dispute, hein, voilà, on n'est pas d'accord, mais il y a un consensus derrière, il y a du dialogue et c'est parfaitement autorisé par la loi. Voilà. Donc ça, c'est important de le rappeler. La violence conjugale, c'est avant tout un rapport où il y a un dominant et un dominé.
Et ça commence bien par un amour,
exactement.
Et qu'on y croit, en fait.
Exactement.
Et après, ça devient la relation toxique.
Tout à fait.
Et en prise.
Tout à fait. Après, il y a d'autres étapes, mais on va laisser le fil de l'émission et
exactement,
je reviendrai après.
Exactement. Vous, justement, Marie, au sein de la Maison de Solidarité, vous recevez en fait des femmes et des familles qui sont sujettes de violences conjugales. Et est-ce qu'il y a une reconnaissance à ce moment-là? Est-ce que vous arrivez à reconnaître, en fait, est-ce qu'il vient avec la plainte directement ou est-ce que vous arrivez à sortir justement cette violence de eux, de elles, surtout?
Alors, avant de répondre à votre question, je vais quand même expliquer ce que c'est que la Maison des Solidarités, parce
Allez-y.
Que c'est un peu opaque, je pense, pour certaines personnes. Donc, c'est le service social de proximité, hein, médico-social. On a 4 services au sein d'une Maison des Solidarités. La protection maternelle et infantile, la PMI. Nous avons les services de l'aide sociale à l'enfance, pour tout ce qui est protection de l'enfance. Ensuite, on a le service social de secteur, de proximité. Dans le langage commun, c'est les assistantes sociales. Voilà. Et ensuite, on a un service autonomie pour tout ce qui est aide et maintien des personnes en situation de handicap ou personnes âgées, au-delà de 60 ans.
Et ça représente une des structures en fait, qui peut accueillir justement des femmes et des familles qui ont besoin de protection.
Exactement. Donc c'est une obligation. Le département a l'obligation de mettre en place ces services sociaux de proximité. En Haute-Garonne, il est extrêmement développé puisque nous avons 30 maisons des solidarités. Et il y a un engagement fort du département sur cette thématique-là. On a créé l'Observatoire des violences faites aux femmes. Tous les départements n'en sont pas dotés, donc je tiens à saluer l'engagement quand même du département. Et donc oui, pour répondre à votre question, Anna, effectivement, on reçoit des victimes, mais c'est extrêmement difficile pour une victime de conscientiser qu'elle est victime.
Absolument.
Donc c'est assez rare que la victime arrive en disant « Bonjour, je suis victime de violence conjugale, aidez-moi ». On est plutôt... Ça arrive, ça arrive. Mais il y a eu d'autres étapes avant. Mais la plupart du temps, elles arrivent en disant « Voilà, bah, ça ne va pas à la maison. J'ai des difficultés avec mes enfants, j'ai des difficultés avec mon mari. J'ai des problématiques financières. » Voilà. Il y a plusieurs biais pour aborder et rentrer en relation avec un travailleur social. Ce qui est important, c'est que sur l'ensemble des services de la Maison des Solidarités, cette problématique, elle est présente. Ça veut dire qu'on la retrouve de in utero, puisqu'on suit notre public, il va de in utero jusqu'à la mort quand même. Et donc on va la retrouver dans l'ensemble des services. Mmh. Voilà. Donc même chez les personnes âgées, nous avons des victimes de violences conjugales.
Bien sûr, mais il y a pas de, enfin il y a tous les âges sont concernés. Joanie, vous justement, vous avez souri tout à l'heure hein, quand on en parlait de certaines violences que Sonia expliquait, et j'aimerais bien savoir un peu de quelle façon vous avez vécu en fait ces violences, parce que c'est un témoignage que vous délivrez dans votre livre Le miroir des apparences. Est-ce que vous vous êtes rendu compte et à quel moment vous vous êtes rendu compte en fait de ces violences?
Alors, je suis restée avec cette personne déjà 14 ans. Voilà. Alors, ça pose les choses. C'est long,
c'est
de
long.
Se rendre compte. J'ai été persuadée les trois quarts de ce temps que c'était moi le problème. Donc,
comme beaucoup d'autres femmes.
Voilà, c'est oui. Ça. Le problème, c'est que non, franchement, pendant très longtemps, c'est très compliqué de se dire que c'est, enfin, que le problème ne vient pas de nous. On se sent responsable, forcément. Bah, j'ai mal fait ça. Si j'avais pas dit ça, si j'avais pas fait ceci ou autre, voilà. La pensée des victimes, tout le temps dans la culpabilité. Finalement, il y a plusieurs choses qui m'ont permis de prendre du recul sur ce qui se passait. La première, ça a été de me reconstituer un cercle d'amis. D'avoir de nouveau accès à l'extérieur. Alors ça me fait sourire parce que j'ai rencontré des gens justement en allant au centre social de la Salvetat. Okay. Donc j'ai rencontré d'autres mamans, on a pu parler. J'ai rencontré des femmes qui ont été victimes, elles aussi, de violences psychologiques, de violences physiques également au sein de leur foyer. Donc, ça m'a fait prendre du recul sur ce que je vivais, moi. Il y a eu ensuite plusieurs éléments déclencheurs. Après, vraiment des engueulades très poussées, pleines de mauvaise foi, avec mon conjoint de l'époque, notamment au niveau financier. Je replante un peu le décor. J'étais en congé parental, c'était notre deuxième enfant. Je ne suis pas de la région, donc on n'a pas d'aide ici. Donc j'étais toute seule au niveau familial ou autre. Donc au niveau des enfants, lui était militaire, il partait beaucoup. Donc j'étais vraiment toute seule au foyer pour tout gérer. Je ne pouvais pas me reposer sur lui si je retrouvais un travail ou autre au niveau des horaires. Donc bref, tout ça, c'était très compliqué à gérer pour moi. Mais pour lui, comme j'étais à la maison, je ne ramenais pas d'argent. Donc je n'avais rien le droit d'acheter. Voilà.
Et vous a fait culpabiliser, en fait, chaque fois.
Oui, tout à fait. Hein,
parce que j'ai entendu aussi d'autres témoignages qui sont avec des violences économiques. Ils font culpabiliser tout parce qu'on ne peut pas travailler. Mais en même temps, en fait, il faut quelqu'un qui
garde les enfants. Alors, j'avais été très factuelle. Hein, j'avais fait le calcul. Voilà, mais si je retourne travailler avec le salaire que j'avais avant, je gagnais 1 250 € net. Avec le congé parental et la CAF, j'en touchais 850-900. Voilà. Non, mais vraiment, j'avais fait le calcul. Et je dis, c'est important. Parce que faites vraiment le calcul et vous verrez que, concrètement, désolé pour tous ceux qui prennent le retour au travail tout de suite parce qu'on gagne plein d'argent, sauf si on est cadre. Mais moi, concrètement, je perdais de l'argent si j'allais travailler et j'arrêtais pas de dire, mais tu vois, si j'y retourne de suite, en fait, on perd de l'argent. Il y a la nounou, il y a tout ça, tous les frais. En fait, on perdait, je crois, 600 euros par mois ou quelque chose. Enfin, c'était astronomique. Bref, donc il y a eu ça et il y a eu, et c'est pour ça que. Voilà, c'est très bien que Marie soit là aussi qui est là pour représenter ça. Ma fille était en maternelle et un jour, j'ai dû la rattraper par le bras parce qu'elle s'enfuyait en fait du terrain de jeu et il y avait la route à côté. Et je l'ai attrapée d'une manière extrême par le bras. J'ai serré très fort, j'ai eu très peur et ça lui a laissé une marque. De là, en fait, comment on appelle ça, la dame de l'école, je ne sais pas comment dire en français,
la TSEM.
A prévenu les services sociaux. Il y a eu une enquête sociale, en fait, sur moi parce que j'étais accusée de violence sur mes enfants, vu que ma fille avait une marque. C'était très compliqué. Maintenant, j'en souris. C'était pas du tout rigolo à l'époque. J'ai vraiment eu très peur parce que j'ai vraiment eu peur qu'on prenne mes enfants parce qu'elles sont arrivées en me disant non, mais de toute manière, on peut vous prendre vos enfants, tout ça. Bon, ok, super. Bon,
la fin, en fait. C'est comme ça aujourd'hui.
quand elles m'ont fait venir pour me rendre le bilan, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles m'ont fait venir toutes seules. Elles n'ont pas fait venir le papa. Et elles m'ont dit, mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous vivez n'est pas normal? Voilà. Et finalement, c'était un mal pour un bien, finalement. Okay. Ça a été vraiment. Moi, j'ai eu très, très peur qu'on me dise, mais vous êtes une folle furieuse, vous ne faites pas attention à vos enfants, vous les aidez. Vraiment, j'ai eu tellement peur, on se fait plein de films. Et finalement, l'idée, c'était, mais faites-vous aider, il faut que vous en sortiez, ça ne peut pas continuer comme ça. Et au fur et à mesure, on prend du recul. Et un jour, j'ai regardé ma fille et je me suis dit, mais en fait, si elle se retrouve avec un homme qui est comme son père, moi, en tant que mère, je ne le supporterai pas, je pense que je serais capable de le tuer. Et là, en fait, je me suis dit, mais attends.
Applique-le-toi.
Toi aussi, t'es la fille de quelqu'un, en fait. Et j'avais jamais pris ce recul, en fait, sur la situation, parce que j'absorbais. Et de là, en fait, j'avais pas de travail, j'avais rien du tout pour partir ou quoi que ce soit. Hein. Je le redis, j'étais isolée totalement. Je me suis dit, ça peut pas continuer. Il faut que ça s'arrête. Mon fils allait rentrer à l'école, donc j'allais pouvoir recommencer. Franchement, c'est bien goupillé. La prise de conscience était au bon moment. Le cheminement a permis... c'est mis en place au bon moment pour que je puisse partir. On va dire ça comme ça. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pu partir. Mais c'est vrai qu'il a fallu 14 ans. Voilà, 14 ans. C'est pas rien. Pour ça, faut pas culpabiliser si vous êtes dedans. Il faut du temps.
Faut du temps et peut-être taper aux bonnes portes, du coup.
Oui.
Alors oui, c'est très, très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on multiplie les formations.
Ne pas hésiter à taper, c'est plutôt ça.
Ne pas hésiter parce que déjà...
c'est dur en fait.
Ce que dit Joanie en Suisse, c'est quand même le sentiment de honte qui est très présent chez les victimes. Donc non, vous n'avez pas à avoir honte, vous êtes victime. Voilà, ça c'est... Et on vous croit, je crois que c'est important de le dire. Déjà, nous, on travaille sur ça, voilà, sur ce sentiment de culpabilité qui n'a pas lieu d'avoir, sur cette prise de conscience. Je dis on parce que ça commence dès l'accueil, voilà. Nous, on forme absolument tous nos professionnels de l'accueil, en passant par les travailleurs sociaux, médico-sociaux, les médecins, on est tous concernés. Je vois Anna qui me fait les gros yeux.
Merci. Non, pas du tout.
Non, mais tu as raison de le préciser. Et en fait, comme tu le dis, les femmes sont victimes. Donc en fait, dès qu'on se dit, tiens, c'est une violence, on entraîne souvent une autre. Oui. Il y a une enquête IFOP qui dit qu'une femme a deux fois plus de chances d'être victime de violences économiques conjugales si elle gagne beaucoup moins que son conjoint. Et ensuite, oui, une femme sur trois ayant été victime de violences économiques a subi par la suite une autre forme de violence conjugale. Oui. Donc, c'est pas rien, il ne faut pas en avoir honte, c'est pas de notre fait. Et du coup, allez, se veut.
Oui, parce qu'on normalise et qu'on conscientise, en fait. On ne conscientise pas et on normalise, on intègre un fonctionnement qui, justement, n'est pas normal. Et donc, on est un peu plus dans la reproduction. C'est d'ailleurs l'une des étapes, si ce n'est pas la deuxième étape, c'est la dévalorisation, qui fait partie donc du processus des violences conjugales.
Et en parlant de victimes, il y en a une qui est célèbre, qui en a fait une magnifique chanson. Une magnifique chanson, c'est Camille Lelouch. Nous vous laissons l'écouter.
N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey. Je te dis que je suis foutu. Me laisse, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. N'insiste pas, il est temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tournent, tournent dans ma tête. Tournent, tournent dans ma tête.
Camille Lelouch, n'insiste pas, justement, nous délivre un autre témoignage de violence conjugale qu'elle a vécue en fait au sein de son couple et de quel point, enfin, à quel point c'était très difficile aussi de s'en sortir. Je voulais juste que je laisse la parole à Joanie aussi pour quand on parle en fait de témoignage, de revenir en fait à cette idée-là d'emprise et comment vous avez fait en fait pour s'en sortir. On avait parlé tout au début de ce processus, mais en dehors de l'émission, vous avez dit encore, il est présent en
oui.
fait. Donc,
tout à fait.
On s'en sort pas. Complètement.
C'est ça. Mais déjà, on a des enfants ensemble. Donc, ce qui oui. veut dire qu'il y a un lien qu'on ne peut pas couper. Et c'est très compliqué parce que la justice ne prend pas en considération en fait les violences psychologiques. En tout cas, moi, à l'époque, quand je suis passée chez le juge, pas du tout. Au contraire, ça en a même rajouté une couche dans mon cas. Monsieur étant militaire, on m'a fait comprendre que je devais me plier en fait à ses exigences. Voilà. Donc ça a été une autre violence aussi. Hein, voilà. Faites aux femmes, pas dans le sein du couple, mais en voulant se séparer, ça n'a pas été simple. J'ai vraiment pas été accompagnée là-dessus, mais bon, voilà, je connaissais pas, j'avais pas les ressources à l'époque hein, pour ça. Je voulais juste fuir. Et du coup, voilà, ça fait des jugements pas clairs. Ça fait des jugements qui obligent les deux parties à avoir des contacts, ce qui est très compliqué. Et donc, même au bout de 7 ans, l'emprise est toujours là, même si voilà, j'ai travaillé sur moi. Je suis suivie depuis plus de 10 ans par différents psychologues, psychiatres. J'en ai épuisé pas mal, d'ailleurs, parce que c'est pas facile de se reconstruire.
Une petite parenthèse, oui. Vous êtes suivie. Est-ce que votre ex-conjoint est suivi aussi? Est-ce que vous avez des connaissances là-dessus? Parce que c'est vrai qu'en fait, on parle beaucoup des victimes qui se font suivre, mais où est-ce que sont ces dominants, ceux qui commisent en fait, qui commis des viols, violences.
Ou commettent.
Commettent, pardon. Merci. Ah, bah. Je suis emportée par les émotions.
Il y a de quoi.
Je vais me permettre un brin d'ironie. Monsieur a eu une semaine d'arrêt maladie parce qu'il a lu mon livre. Voilà. Donc ça l'a traumatisé. Moi, ça fait 10 ans que je suis en thérapie. Voilà.
Et ça rajoute des... Enfin, un poids économique de la thérapie. On sait bien que tout n'est pas pris en charge.
Je n'ai pas pris
et donc
en charge.
Ça incombe à la personne, à la victime. Et je crois savoir que ce n'est pas des frais qu'on peut faire prévaloir en plus et demander une indemnité. Donc, la violence économique se poursuit. Un, parce qu'on a des enfants en commun et qu'il y a toujours la discussion autour de la pension alimentaire. Et deux, parce qu'il faut se reconstruire, comme vous le dites, et que ça coûte. Ça coûte. Et ça coûte à la société. Et là, enfin, oui. Je vais le dire fort. Et j'espère que de l'autre côté de votre poste de radio, ça ne sera pas une découverte et que ça va permettre des prises de conscience. Ça coûte fort parce qu'un agresseur qui ne se fait pas soigner, qui n'essaie pas de comprendre la problématique de son comportement, coûte hyper cher à la société.
Absolument.
Il y a une vidéo qui tourne depuis 2-3 jours sur le coût de l'incarcération des hommes, etc. 92,3%, je crois, des coûts... Sont juste liés à l'emprisonnement des hommes. Enfin, il faut quand même y penser. Alors, je referme la parenthèse. Ça me tenait à cœur.
Je voudrais juste rajouter, voilà, effectivement, il y a le coût des suivis thérapeutiques ou autres qui ne sont pas pris en charge. À 60 euros la séance, 2 fois par mois, je vous laisse faire le calcul. mais il y a également tout l'impact derrière et qui va toucher la vie professionnelle également. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'arrêts maladie de mon côté. Quand je suis partie, j'étais incapable en fait de me lever. J'étais incapable de tout. J'ai failli être internée plusieurs fois, mais si j'étais internée, je perdais la garde de mes enfants. Donc, c'était pas possible. Donc, il a fallu continuer à tenir pour ça. Mais les arrêts maladie continuent. Alors, de manière beaucoup moins régulière à présent, mais ils m'ont porté préjudice quand j'ai repris ma vie active, forcément. J'ai une maladie qui s'est déclenchée aussi suite à tout le stress et tout le reste, donc ça aussi c'est un coût pour la société.
Pour faire un emprunt bancaire également, hein, c'est pris en compte et votre assurance coûte plus cher de fait de ça, et vous n'êtes pas couverte pour certaines
choses. Mais tout, en fait, ça a vraiment un impact énorme. C'est pas juste se dire c'est bon, t'es parti, maintenant tu peux vivre ta vie. Non, non. Et tout ce qui se passe dans la tête, tout ce qu'on a déconstruit, voilà, juste le petit exemple, mais qui est très symptomatique. Donc, j'ai parlé de viol conjugal au début de l'émission. Quand je me suis mise avec mon nouveau conjoint, il y a, dans les premières fois, voilà, c'est la beauté, on a envie, tout ça. Et il y a un jour, je n'avais pas envie. Mais j'avais appris qu'on n'avait pas le droit de dire qu'on n'avait pas envie. Et donc, il le sentait, mais il me dit, t'as pas l'air d'avoir envie, t'es pas bien, machin. Je dis, si, ça va. Puis, je suis pas très super bonne comédienne. Il me dit, non, je vois bien que ça va pas, mais si t'as pas envie, tu le dis. Je dis, oui, mais après, tu vas être fâchée. Il m'a regardé, il s'est arrêté, il m'a regardé, il m'a dit « Mais ça va pas dans ta tête, mais si t'as pas envie, je te touche pas, c'est ton corps, c'est à toi de me dire si je peux te toucher ou pas. » Et en fait, j'en ai pleuré, clairement, ça m'a tellement marqué parce que moi j'étais habituée, non, faut le faire 3 fois par semaine, t'as pas envie, c'est le même tarif. Il m'avait fait passer pour une folle, j'étais allée voir une sage-femme pour qu'elle me prescrive du lubrifiant parce que c'était plus possible en fait d'avoir des rapports avec lui, donc je devais me cacher pour en mettre parce qu'il fallait pas que je dise que c'était pas naturel, machin, enfin c'était un truc de...
Alors que c'est fortement recommandé.
Voilà, mais
parce qu'il y a encore beaucoup de femmes en fait qui vivent la même chose.
Et en plus
encore.
On vous dit c'est le devoir conjugal. En plus, on ajoute devoir devant, forcément, on ferme sa bouche. Et on n'est même pas mariés, je précise quand même. Mais bon, il fallait jouer beaucoup là-dessus. Et donc, ça met du temps à se dire, en fait, on a le droit de dire non. Encore maintenant, je sors,
j'ai le droit de sortir. Forcément, je suis majeure et vaccinée, je fais ce que je veux. Mais quand je sors, je dis, mais ça te dérange pas si je vais au cinéma ce soir ou quoi? Enfin, j'y vais toute seule, je fais pas des conneries, je fais pas, voilà, je fais pas de...
Quand bien même.
Quand bien même, c'est mon problème. Mais à chaque fois, il me dit, mais pourquoi ça me dérangerait? Tu fais ce que tu veux. Et ça fait 7 ans que je suis partie, 7 ans que j'ai quitté mon ex. Et j'arrive encore à demander, est-ce que ça te dérange que je sorte?
Merci Joanie.
Marie Pradel.
Oui, ce que dit Joanie est important en fait, et j'en reviens à la question que vous me posiez tout à l'heure, comment on détecte les conséquences des violences conjugales sur la santé sont importantes et s'inscrivent en général sur la durée. Donc il n'est pas rare que les victimes développent de l'addiction, des états de santé dépressifs, des états de santé vulnérables. Voilà, donc, et ça, en fait, ça participe aussi tout ça à un certain cliché au regard de tout le monde. Combien de fois on a entendu si elle reste, c'est qu'elles aiment ça. De toute façon, elle est faible, donc forcément, il faut qu'ils soient un peu autoritaires pour qu'ils se bougent, pour qu'elle se bouge. Enfin, voilà, c'est non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est un mécanisme, c'est un cycle qui est constitué de phases, d'étapes. C'est ce qui fait l'emprise. L'emprise, elle s'installe sur la durée, et donc forcément, si elle s'installe petit à petit de façon insidieuse, et ben c'est pareil pour en sortir. En fait, c'est le départ ne constitue pas une guérison. C'est une étape de plus, et c'est une nouvelle histoire qui démarre. Voilà, juste, je précise quand même qu'un départ définitif, il est souvent précédé de 7 départs auparavant.
Ah oui, ouais. Quand même. Alors, tout à l'heure, on a parlé de thérapie de victimes et de schéma normal, en fait. Oui, effectivement, quand on n'a pas envie de faire l'amour, on a le droit de dire non, ça s'appelle le consentement. Et moi, je voudrais parler des victimes peut-être oubliées, ce sont nos enfants. Parce que finalement, un enfant qui a vécu avec ce modèle de violence, on le sait, les études le prouvent, ça devient potentiellement les garçons deviennent potentiellement des hommes violents, et les petites filles deviennent potentiellement des victimes d'agresseurs, d'hommes violents. Et je voulais revenir sur ces enfants. Et qu'est-ce que fait la société? Est-ce que Marie, tu as une réponse à nous donner sur ce qui est proposé pour qu'ils se fassent soigner, ces enfants ou...
Alors la société, notamment, moi je ne vais pas parler au nom de la société, je vais parler en tant que professionnelle qui œuvre au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne, et notamment dans le cadre de la protection de l'enfance. On fait énormément de choses, on fait notre travail, hein, essentiellement de la prévention, donc ça passe par être là aujourd'hui par exemple. Expliquer à tout un chacun ce que c'est, mais c'est aussi aller dans les écoles, prévenir un petit peu, faire des actions, expliquer aux enfants qu'ils ont le droit de parler, rappeler la convention d'Istanbul, qui est une convention qui a fait jurisprudence et qui dit qu'un enfant qui est témoin est un enfant qui est victime.
Ça, c'est
malheureusement
hyper,
ce n'est pas toujours appliqué encore dans nos tribunaux français.
Et qu'un père violent avec son épouse n'est pas forcément, n'est certainement pas un bon père de famille, on peut aussi le dire.
On peut le dire, malheureusement encore, la jurisprudence ne fait pas foi sur ça. On a eu ce long débat, notamment lors de la dernière journée interprofessionnelle organisée par le conseil départemental. J'espère qu'on y arrivera. Et les professionnels que j'encadre aujourd'hui, je le sais, sont dans cette mouvance-là. Joanie, tout à l'heure, parlait de ce qu'on appelle une information préoccupante, c'est pas un signalement, c'est-à-dire que ce sont deux travailleurs sociaux, médico-sociaux, en fonction de l'âge des enfants, qui vont à la rencontre, qui se déplacent au domicile. On est dans un dialogue, c'est important, et on évalue la situation avec les enfants, avec la famille, et on est là effectivement pour libérer la parole, mais aussi émettre des prises de conscience et proposer de l'aide. Donc ça passe souvent par des mesures éducatives, voilà.
Merci.
Il y a d'autres structures aussi, en fait, qui sont présentes sur notre territoire. Peut-être on peut les mentionner, Marie Pradel, vous faites partie de la Maison des Solidarités, mais on connaît bien aussi les autres. On peut parler de CIDFF, parce qu'ils sont dans différents départements. Je vous laisse parler des autres structures qui viennent en aide.
C'est très important parce que, comme de nombreuses problématiques sociales et médico-sociales, les violences conjugales et les violences intrafamiliales, on les traite traite pas seul. Voilà, on travaille en partenariat. C'est hyper important parce qu'on a tous nos spécificités, nos compétences. Puis nous sommes un service public, donc on ne prend pas parti pour l'auteur ou pour la victime. Voilà, on accompagne tout le monde. C'est très, très important. Et donc, effectivement, on travaille en relation avec le CIDIFF, donc le Centre d'information, le Centre des droits d'information de la famille et de la femme,
Centre d'information des droits et des familles.
Qui sont situés à Toulouse, au 95 Grande Rue Saint-Michel, mais ils ont des permanences un petit peu partout.
Dans le Gers aussi, tous les départements.
Tout à fait, c'est une association qui est nationale. Vous avez aussi France Victimes qui se décline dans chaque département, conventionnée avec les commissariats et les gendarmeries, et vous avez des intervenantes sociales en gendarmerie avec qui nous travaillons énormément.
Ça, c'est très bien parce que
dernièrement,
voilà, c'est ce que je suis aussi, que le Centre d'information des droits des femmes et des familles forme aussi les commissariats. Du coup, on fait un pas en avant quand même quelque part.
Oui, et puis dans chaque structure juridique, donc en tout cas, commissariat, gendarmerie en Haute-Garonne, et je pense que c'est assez le cas dans toute la France, on a des intervenants sociaux de France Victimes. Il n'y en a pas assez, voilà. Il n'y en a pas assez, ils sont débordés.
Tout à fait, oui. Il y a la PIAF aussi que vous avez mentionné.
La PIAF, Olympe de Gouges, il y a la VAC qui est une association aussi qui prend en charge les auteurs de violences conjugales. Nous avons aussi le CPAC, attendez, je reprends mes notes parce que j'ai toujours peur de me tromper, le CPCA, pardon. Donc ça, c'est suite au... c'est le centre qui prend en charge les auteurs, c'est ce qui a été créé suite au Grenelle des violences conjugales en 2019. Donc là, on en a au moins un dans chaque région. Il se trouve qu'en Occitanie, on en a deux. Un à Toulouse et un à Montpellier. Et à Toulouse, c'est l'association UCRM qui prend en charge les auteurs.
Et
ont été condamnés.
Et en cas d'urgence aussi, 3919.
Et le 115.
Et le 115,
c'est important
bien
de le
sûr.
Rappeler, le 115 qui prend... qui D'accord. aident en tout cas les victimes à se loger dans l'urgence et qui font le lien très souvent après avec les maisons des solidarités pour enclencher un accompagnement social.
On fera une note dédiée sur les ressources et un récapitulatif. Ouais. C'est important. Le planning familial aussi, en
Évidemment.
Proximité, peut permettre
première
détection.
Il y a des partenaires et des acteurs qu'on oublie parce que c'est tellement
c'est
évident.
Ça, le médecin de famille.
Évidemment. Et puis j'ai envie de vous dire à vos amis, votre famille, voilà, c'est aussi tout l'objet de ces émissions. Et puis on développe au département, comme d'ailleurs ces associations, des outils que vous retrouverez sur le site internet de l'Observatoire des violences faites aux femmes. Il y en a un qui est de plus en plus connu, c'est le violentomètre. Mais au département, nous avons créé la roue des cycles et la roue des pouvoirs. Ce sont des outils que tous les acteurs, puis n'importe qui dans la société, peut lire, peut se servir. Ça peut être un jeu aussi pendant la soirée, tout simplement. Ça peut permettre à des victimes de prendre conscience qu'elles sont victimes.
Je vais les ajouter sur mon bureau avec le violentomètre.
J'ai même été surprise de trouver un violentomètre pour mettre mon pain à Toulouse. Il y avait
c'est une initiative de nous toutes. Nouvelle action qui est mise en place en fait.
Alors on voit qu'il y a plein d'actions qui sont mises en place, mais il y a quand même, moi j'ai été surprise en préparant cette émission de découvrir que il y a une volonté politique pas forcément aussi impliquée qu'ils n'ont l'air de l'annoncer, parce que quand on compare avec l'Espagne, là-bas, en Espagne, il y a vraiment le nombre de féminicides qui a baissé de 25% depuis 2004. Donc il y a clairement une volonté politique d'engagement, de concret. Est-ce que, Marie, tu es à l'aise pour parler de cette différence ? Délicat.
Alors c'est délicat effectivement, mais c'est un constat. Ce qui est constaté, c'est que depuis 2019 en France, les choses évoluent et qu'on a, une augmentation, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est 50 millions d'augmentation du budget, donc c'est quand même relativement énorme. Et il faut souligner qu'il y a plein de choses qui se sont faites depuis. La législation a évolué, on a étendu le téléphone grand danger, il y a eu la création du bracelet anti-rapprochement qui est notamment inspiré de l'Espagne. Tu parles de l'Espagne, mais il y a aussi le Québec et le Canada où on a le syndrome de la femme battue qui est légiféré. Voilà, donc effectivement, on est encore très très en retard en France. C'est certainement dû à un manque de moyens, mais moi je crois aussi que c'est aussi dû à un grand manque de communication et d'éducation. Et que donc, ce qu'on fait là ce matin, discuter, parler, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire dans les écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, mais aussi au travail, peu importe le secteur où on parle. C'est une problématique qui touche absolument tout le monde.
Et surtout sensibiliser les hommes, ceux qui sont les dominants, on va dire comme ça.
Qui ne se remettent pas facilement en question, en fait, qui ne voient pas forcément le problème.
La société est construite autour de ça. Donc,
Parce qu'un sur une victime, tous les deux jours, en fait, il y a un féminicide. Donc, on va écouter Zao de Sagazin pour notre pause musicale, les dormantes. Et on revient de suite pour notre dernière ligne droite.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement en noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, l'aguicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. L'amour, l'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Tout s'est passé silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Est-ce que nous sommes des belles au bois dormant, peut-être encore? On parle aujourd'hui des violences conjugales dans le studio des culottes. Et on savent avec Alexandra et Sonia, et moi c'est Anna. On est entouré de Marie Pradel qui travaille à la Maison des Solidarités et Joanie Frugo désolée pour écorcher ton nom, qui a écrit un livre témoignage qui s'appelle Miroir des apparences et qui parle de violences conjugales, qui a pris quand même 14 ans de sortir de ces violences conjugales. J'aimerais bien qu'on parle de ces livres avant de passer sur le reste qu'on a prévu pour l'émission. Donc, ces livres qui est un miroir, justement. Voilà, le titre n'est pas donné pour rien.
C'est ça.
Alors, Joanie, parle-nous un peu de cette fiction qui n'est pas en fiction.
Mais le miroir des apparences, en fait, déjà, le titre, il s'est imposé de lui-même. Parce que c'est vraiment l'impression que j'avais. Quand on sortait pas souvent, mais quand on voyait ses collègues, quand on devait aller à l'extérieur, on donnait toujours le change, l'impression d'être le joli petit couple parfait, marié, deux enfants, enfin voilà, vous voyez le tableau, hein, avec la jolie maison, la piscine et tout ce qui va bien, donc symbole de réussite, c'est ce qui était très important à ses yeux. Hein. C'était vraiment, on était dans la symbolique, dans l'image en fait qu'on renvoyait.
Et dès que la porte se ferme.
Et dès que la porte se ferme, en fait, c'est un autre visage. C'est vraiment un autre masque. Enfin, il enlève le masque extérieur plutôt pour reprendre le masque intérieur. Et pendant les moments de liberté que je vivais en fait quand j'étais en dehors avec ses collègues, avec j'allais dire des amis, c'était pas des amis,
c'était
en vrai,
tiens, en tout
c'était pas mes amis. Donc avec l'extérieur, des fois, je parlais, je titillais, j'essayais de faire comprendre que ça allait pas. Je le payais très cher en rentrant ensuite, voilà. Bon, ce qui est positif, c'est que après ce livre, après des années à être partie, j'ai eu des retours justement de ces amis qui n'étaient pas mes amis, qui m'ont écrit pour me dire, mais en fait, on voyait un peu ce qui se passait. On a essayé de lui parler, mais il s'est fâché avec nous. Et c'est vrai, il a arrêté de parler à plein de personnes. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi on ne les voyait plus du jour au lendemain, alors que c'était des personnes qu'on voyait de manière régulière, vu que c'était son cercle. Donc 10 ans après, j'ai appris, j'ai compris. Voilà. Mais c'est compliqué. Mais ces personnes-là ne sont pas venues me parler en fait, directement à moi. Voilà. Parce que peut-être que j'aurais eu un
toute
autre
une déclic. Société sous emprise.
Vous avez
aussi à porter plainte, en fait, c'est ça? Vous avez porté plainte?
Non, j'ai non. pas réussi. Parce non. qu'à chaque fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais ramener, en fait? Parce que j'avais l'impression, en tout cas, de ne pas avoir de preuves. J'avais pas d'écrits menaçants, j'avais pas de...
Parce que c'était des violences psychologiques, on va rappeler encore une fois, et économiques.
Viols conjugaux, ok, franchement, j'ai appris ce terme, en fait, sur une publicité qui passait à la télé. Vraiment, hein,
je savais très récent,
je savais même pas qu'il y avait un terme, franchement.
Bien sûr.
Et puis j'avais honte.
Donc, on est encore dans le tabou, on dénie en fait certaines violences et on les banalise.
Oui,
l'idée, c'est ça en fait, de sortir de cette banalité
et
des
puis,
violences.
Joanie parlait de devoir conjugal. C'est clair que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué. Enfin, moi, j'ai ça en tête depuis que je suis petite en réalité. Et c'est l'ouverture d'esprit, l'information, la prévention, comme le disait Marie, qui font qu'on sort de ces idées reçues, de ce que cette société patriarcale veut nous faire croire qu'il est normal d'accepter. Les femmes n'ont pas à être soumises aux hommes ou à un quelconque désir d'autrui.
N'ont pas à être violentées, n'ont pas à être de subir en fait des violences.
Oui.
Donc vous n'avez pas porté plainte, mais en tout cas vous êtes arrivé devant le juge quelque part en fait pour les enfants,
c'est
pour
ça.
La garde alternée.
Pour la garde alternée. Voilà.
Et aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est compliqué.
Oui.
C'est compliqué parce qu'il y a les enfants, justement. Oui. C'est compliqué parce que le comportement manipulateur qu'il avait avec moi, il l'a reporté sur notre fille, qui le vit très mal, qui a un suivi psy à cause de ça, d'ailleurs.
Il a payé la moitié,
quoi. Encore un coût financier. Il a refusé, puis la psy l'a appelé, lui a demandé de venir, et maintenant il accepte. Mais il en a d'abord profité pour écrire un long mail où il m'a fait passer pour la grande manipulatrice auprès de la psychologue, en expliquant voilà, que je manipulais ma fille, que je la montais contre lui. Et j'oublie beaucoup de choses parce que franchement, je préfère oublier. Donc ma fille en a besoin, mais elle continue à aller le voir parce que c'est son papa et qu'en aucun cas, ça qui est compliqué aussi, c'est que je sais ce qu'il leur fait, mais je ne veux pas les couper de leur père, je ne sais pas comment les protéger. Elle aimerait y aller moi ou dans d'autres conditions, mais c'est si elle dit quelque chose,
il lui fait payer. On l'a, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a dit hors micro, mais voilà, on l'a payé ce week-end aussi, d'avoir osé faire des choses sans le prévenir, sans lui dire, enfin, faire des choses, c'était récupérer ma fille alors que c'était prévu. Donc, il était prévenu, hein, mais on ne lui l'a pas confirmé alors qu'on ne lui confirme jamais. Mais cette fois-ci, il fallait le confirmer.
Qu'est-ce que vous vouliez délivrer avec votre livre ?
Alors, ce livre, il y a eu un besoin de l'écrire. Après le premier qui était sur le mal-être des ados, celui-là, il s'est imposé vraiment parce que je le sais aussi maintenant, que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de situation. Qu'on est beaucoup, trop nombreuses, en fait, à vivre sous l'emprise de quelqu'un, que c'est compliqué de prendre conscience. Et moi, j'aurais bien aimé, finalement, qu'on me fasse prendre conscience avant. J'aurais aimé avoir ce baromètre, en fait, hein, de la violence. Parce que quand je l'ai eu en main, c'était pour... Il y avait une animation au cinéma. Il y avait « Je vous salue, salope » qui passait avec le court-métrage « Toulousain Marie ».
Le film qui parle de misogynie en temps numérique.
C'est ça. Et ce jour-là, ils nous ont distribué ce baromètre, en fait. Et quand je me suis rendu compte que j'étais allée jusque tout en haut, bah, ça fout un coup.
Ça fait mal.
Donc, je trouve ça génial d'avoir comme initiative de le distribuer, de le faire connaître, mais distribuons-le dès le collège, en fait. Vraiment, sensibilisons les jeunes, d'être tout petits, déjà à dire non, le consentement, mais oui, parlons-en, mais saoulons les enfants avec ça, le consentement, et mettons-les en garde. Et donc, ce livre, ça a vraiment été pour toutes les femmes qui pouvaient l'avoir en main et qui pouvaient s'y reconnaître un petit peu, dire t'es pas seule, déjà arrête de culpabiliser, c'est pas ta faute si t'en es arrivée là. Et oui, c'est possible de sortir. Ce sera quand toi, tu auras ton déclic et c'est OK. Mais ne culpabilise pas et n'aie pas honte, en fait. C'était vraiment l'idée.
Merci.
Marie Pradel.
Alors, je vais rebondir sur tout ce qu'a dit Joanie, parce que ça fait écho à beaucoup de choses. Ce que dit Joanie, c'est un peu la troisième phase, c'est-à-dire l'inversion de la culpabilité. Mm-hmm. L'inversion de la culpabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est si je m'énerve... C'est de ta faute à toi. Donc moi, en fait, je ne suis pas responsable, c'est toi. Donc c'est ça aussi qui permet à un moment donné d'installer ce sentiment d'infériorité, de ce manque de confiance, ces doutes. Dans le discours de Joanie, on entend beaucoup de doutes. Et c'est légitime d'avoir ce sentiment-là quand vous avez quelqu'un qui passe ses journées à vous rabaisser. Du coup, suivent ensuite les menaces et la peur. Et Joanie le décrit très bien. Et ensuite, et on en est encore là. Et pourtant, ça fait 7 ans qu'elle est partie. C'est assurer son impunité. C'est-à-dire que ce n'est pas sa faute à lui. Moi, je suis parfait. Moi, je suis l'homme et je suis parfait. Voilà. Donc, quand on a ces 5 clés, ça permet quand même de comprendre comment s'installe l'emprise et pourquoi ce n'est pas si simple de s'en sortir. Voilà, pourquoi c'est pas simple de partir, et même après le départ, pourquoi c'est pas simple de sortir vraiment définitivement de ce mécanisme-là. Donc ça, c'était important pour moi de le rappeler ce matin. Après, on a parlé des dépôts de plainte. Moi, je tenais quand même à rappeler que le dépôt de plainte, on n'a pas le droit d'interdire une victime de porter plainte. Voilà, donc... On le voit encore malheureusement, beaucoup moins qu'avant. C'est important de signaler
qu'il y a un progrès
et que les forces de l'ordre en zone police ou gendarmerie sont formées aujourd'hui dans leur formation initiale et puis tout au long de leur carrière. Pas encore assez, mais on, ça va mieux. Donc c'est important de dire que l'article 15-3 du Code de procédure pénale, il faut l'appliquer et vous pouvez arriver quand vous êtes prête à porter plainte, parce que ça aussi c'est important. On l'a vu, Joanie elle s'est pas sentie prête, voilà, et on ne force pas une victime à porter plainte, c'est contre-productif et ça fait aussi d'énormes dégâts, voilà, chez la victime, chez les victimes par ricochet, les enfants. Le dépôt de plainte, il est certes protecteur et il permet d'activer beaucoup de choses sur le plan juridique, mais derrière, il y a des personnes. Voilà. Donc oui, il a au moins le mérite de faire exister administrativement quelque chose, mais il n'est pas là pour faire énormément de dégâts. Et même les forces de l'ordre aujourd'hui ont pris conscience qu'un dépôt de plainte forcé est un dépôt de plainte qui sera avorté. La victime va revenir dessus, et ça sera contre-productif, ça ne permettra pas le départ, et au contraire... Ça va la faire revenir. Donc ce sont des étapes, tout ça, et c'est primordial.
Moi, je me demande de quelle façon on accompagne encore une fois les hommes. On avait écouté un podcast, Les hommes violents, sur France Culture, qui parle justement de ces hommes qui ont commis des violences et du coup qu'ils devaient faire un genre de stage ou un genre d'atelier pour se repentir quelque part. Et sur ce stage, il y avait aussi une femme qui s'est retrouvée dedans parce qu'elle a giflé un homme.
Et en fait, avant de prendre 45 minutes de coup.
Merci, absolument. Donc, elle s'est retrouvée là. Elle était la seule, en fait, selon son témoignage, qui se remettait en question parce que tous ces hommes-là, c'était comme ils se retrouvaient entre hommes de parler de leur violence qui culpabilisait les femmes, en fait, finalement, de dire voilà, c'est, elle a mérité, etc. Enfin, ce genre de choses qui banalisent encore une fois les violences. Donc, la question se pose de quelle façon on accompagne les femmes, parce qu'il y a beaucoup de structures qui accompagnent les femmes. Donc l'idée, c'est maintenant de savoir, est-ce qu'il y a des structures qui accompagnent les hommes? Marie Pradel, est-ce que vous avez quelques informations?
Alors oui, il y a des structures qui accompagnent les hommes. Vous avez donc déjà, il y a une ligne, comment on appelle ça, une ligne téléphonique qui est dédiée, hein, d'accord, depuis le Covid, qui est portée par une association. Ensuite, non, mais bon, la démarche, ces hommes qui font cette démarche-là ont déjà une prise de conscience.
Oui.
Donc c'est pas le même accompagnement. Oui. Pour les auteurs de violences conjugales, donc qui n'ont pas conscience que ce qu'ils font vivre, c'est effectivement de la violence conjugale. Et d'ailleurs, le podcast dont tu parles, Anna, que j'ai déjà écouté, le met bien en évidence et on voit bien le cheminement du début jusqu'à la fin de ces hommes. Aujourd'hui, il s'est un peu amélioré depuis le Grenelle, donc il y a eu la création de ces centres de prise en charge des auteurs, les CPCA, comme je le rappelais tout à l'heure, il y en a au moins un par région, et en Occitanie on en a deux, un à Montpellier et un à Toulouse, et à Toulouse il est porté par l'association UCRM. Sauf que pour qu'il y ait une prise en charge, il faut qu'il y ait une condamnation judiciaire. Donc après, voilà, les condamnations sont en augmentation, mais elles ne le sont pas autant qu'elles
devraient.
Ouais, alors rares non, mais en tout cas, elles ne vont pas aussi vite que la parole se libère. Donc effectivement, en termes d'efficience, on en est encore bien loin. Ce sont des prises en charge qui sont coûteuses. Et en termes de moyens, eh bien, on sait qu'on est en dessous des besoins. Et puis à Toulouse, on a aussi l'association AVAC, qui existe depuis de nombreuses années, qui prend en charge les auteurs, soit parce qu'ils ont été condamnés, soit parce qu'ils en font la demande. Voilà.
Ok, merci beaucoup Marie. Mais le coût de la prévention sera toujours inférieur au coût de la correction, de la réinsertion, etc. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Pour montrer que peut-être les moyens, enfin, il faudrait qu'il y ait un autre Grenelle et qu'il y ait une étude qui soit faite et qu'on comprenne bien ça et qu'on mette les choses en place. Si toutefois ça ne dérange pas trop de monde dans notre société.
Oui, parfaitement. Je souscris. Bon, après, c'est aussi le propre de tous les sujets autour de la prévention. Il faut bien que les choses évoluent et chaque chose part en son temps. Mais voilà, il faut bousculer parfois les mentalités pour faire évoluer les choses. J'ai juste quand même oublié de préciser que la Maison des Solidarités, elle prend en charge, dans la limite de ses compétences, effectivement, autant les victimes que les auteurs. Hein, je l'ai déjà dit.
Oui, tu l'as dit.
Je le redis. Voilà, on a des psychologues, on a des travailleurs sociaux et des médico-sociaux et on accompagne à la prise de conscience.
Et vous savez réorienter sur les
personnes. Réorienter, effectivement.
Merci beaucoup.
Et on a juste une application aussi qu'on n'a pas mentionné, Appel. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, normalement, oui, Marie Pradel.
Alors, oui,
peut-être un dernier mot sur cette...
Alors, sur Appel et sur Mémo de vie, parce que c'est quand même très important. Donc, Appel, elle permet de géolocaliser et de lancer des alertes pour les victimes en appuyant sur un bouton sur l'application. Et vous avez aussi Mémo de vie, qui est une structure, enfin, qui est un site internet, pardon, qui permet de faire coffre-fort numérique pour les victimes de violences conjugales, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au-delà du fait qu'un départ, ça se prépare, il s'agit de stocker en fait des papiers, des documents et aussi des récits de vie. C'est important à un moment donné, quand on prend conscience des choses, d'écrire et de réécrire. Et c'est aussi comme ça que la victime va pouvoir, lorsqu'elle va passer devant le médecin légiste ou devant une expertise, faire appuyer aussi le fait qu'elle a été victime de violences psychologiques.
Merci Marie-Pradel, merci Joanie Frugo. Vous merci pouvez retrouver aussi ces livres, justement, Miroir des apparences, prochainement en dédicace. Et,
on peut suivre Joanie sur ses réseaux sociaux et voir un petit peu d'autres informations sur ce sujet. Nous arrivons au bout de cette émission et nous vous remercions pour votre écoute. On a des auditrices qui nous ont répondu en direct. On les salue, on sait qu'elles en ont besoin d'entendre ces mots. On est contente. On est contente que nos mots soient entendus dès aujourd'hui. Si vous aviez besoin de soutien quant à une situation de violence, nous vous invitons à composer le 3919, à vous rapprocher des structures présentées et ou à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Nous aussi, les culottés en savent,
on relaiera,
on sera très heureuse de faire ça.
Juste, je voudrais préciser que la Maison des Solidarités, c'est ouvert quand même du lundi au vendredi, de 8h30 à midi,
merci.
De 13h30 à 17h.
On va
merci.
Saluer aussi Taous qui nous a aidé en fait pour la communication.
Ouais. Et bien plus encore.
Un dernier mot, Sonia.
Merci Taous pour ton soutien en phase de préparation de l'émission et pour la visibilité de cette émission très très importante pour nous toutes. On voulait relayer le message que tu avais donné et en fait, mesdames, mesdemoiselles, ayez confiance en vous-même, en votre force et sachez que vous avez le droit à une vie heureuse et que l'amour, ce n'est pas dans le mal.